Je suis content d'être parmi vous ici à Dijon, à l'espace autogéré de Tannery, entre autres parce que j'habitais 14 ans en Bourgogne, dans un bled de Noyers-sur-Serein, dans Lyon, côté des Tonnerres, au Serre. Et je ne savais pas qu'il y avait en Bourgogne des autonomes organisés, autogérés. Donc ça m'a fait bien plaisir. Je suis content aussi d'être là parce que vous avez repris des termes, notamment des spectacles que vous avez fait sur l'intervento. Justement, c'était le terme qu'on employait à l'époque, fare intervento dans les usines, dans les écoles, dans les quartiers. C'était intervenir dans les dynamiques sociales et essayer de... d'y apporter un vent nouveau, de différentes manières de forger le monde. Alors, j'écris ce livre, Un élève de plomb, presque 40 ans après les faits, parce que j'avais cette histoire sur le cœur, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu d'avoir vécu. Je l'avais sur le cœur parce que dans cette histoire, j'ai perdu 5 copains, camarades. Et je l'avais aussi sur l'estomac, cette histoire. Sur l'estomac parce que depuis lors, le gouvernement, l'État, italien a présenté pas seulement, enfin journalistes, politologues, sociologues, etc. ont présenté ces années comme des années de plomb. Et pour moi, c'était d'abord des années de rêve. Bien sûr, ça s'est terminé dans les plombs et on a utilisé nous-mêmes les plombs. Mais c'était d'abord des années de rêve. Moi, comme des milliers, des centaines de milliers d'autres, on a commencé dans les années 68 ou post-68, dans une dynamique fondamentalement, d'ailleurs, pacifiste. Moi, les premières manifs que j'ai fait, c'était contre la guerre du Vietnam, contre l'annexion de la Cisjordanie par les Israéliens, contre la... Les services militaires obligatoires en faveur des insoumis, objecteurs de conscience, qu'on appelait à l'époque, bien, contre les prisons en général. Et voilà, et de là, des mouvements pacifistes, des mouvements de lutte sociale dans les usines d'abord, dans les écoles d'université, dans les quartiers, etc. Petit à petit, au cours des années 70, de ces grands mouvements issus de 68, il y a eu une partie, quand même relativement importante, plusieurs milliers de personnes, qui ont fait le choix des armes. Ce livre, mon livre, qui raconte 10 ans de cette histoire, commence par la mort de 3 camarades morts dans l'explosion d'une bombe qu'ils étaient en train de fabriquer. Et donc, je m'interroge sur comment nous en sommes arrivés là. Et l'histoire est assez longue et complexe. Et c'est injuste et terrible que cette histoire soit classifiée comme un nez de plomb, parce que c'était un engrenage. On n'était pas tellement méchants plus que d'autres. On n'avait pas envie de faire du mal à autrui. On réagissait aux injustices qu'on subissait, aux injustices qu'on voyait. Et petit à petit, on est arrivé à utiliser la force, qu'on disait à l'époque. Mais c'était un chemin assez long. Et comment et pourquoi, j'essaie de l'expliquer. Moi, je viens d'une province d'Italie, la province de Vicenza, dans le nord-est, à 80 km de Venise, dans les terres, qui était une région, c'était la principale région du textile en Italie. Et c'était la troisième région industrielle d'Italie après Milan et Gênes. Et il y avait une longue tradition des luttes ouvrières, en effet. C'est une province qui, après 1945, était gouvernée sans interruption, jusqu'à présent, en fait, par la démocratie chrétienne. Et donc, elle était appelée la province la Baleine Blanche. Mais c'était faire fi de la part des politologues qui employaient ces termes, du fait qu'il y avait une deuxième âme dans la province, c'était une âme rouge, qui venait déjà des milliers du 19e siècle. Déjà à la fin du 19e siècle, il y avait des organisations anarchistes, socialistes, d'ouvriers dans la province. Et des grèves, des luttes. Il y avait des âmes dans cette province, comme on peut dire, des âmes qui aujourd'hui toujours en Espagne, entre les Noirs et les Rouges. Bien. Donc, je suis dans cette province et j'étais immergé tout de suite dans les idées, dans ce qu'on disait et dans les luttes, vraiment dites, des ouvriers. Parce que c'est dans la province de Vicenza, Valdagna précisément, où il y avait la principale usine textile, Marzotto, qui en 68, en février 68, les ouvriers de cette industrie, qui étaient des ouvriers tenus par les patrons, tenus sur tous les termes, c'est-à-dire que les patrons étaient non seulement patrons des usines, mais étaient propriétaires des immeubles où logeaient les ouvriers, qui avaient fait construire le stade de foot et la piscine pour les ouvriers, vous voyez, bon, bien paternaliste. Bon. Et en 68, les ouvriers se révoltaient. Enfin, ils s'étaient déjà mis en grève un an auparavant. Et au bout d'un an, les grèves ont débouché sur une grève générale et pendant une semaine des affrontements avec les forces de l'ordre à Valdagno et avec l'action symbole de détrôner la statue qui était sur la place de la petite ville, du fondateur de l'industrie Gaetano Marzotto. Hein, et elle a été déboulonnée et tirée au sol avec des cordes par les ouvriers. Image très symbolique et importante qui m'avait marqué, a marqué beaucoup de gens dans ma province et dans l'Italie entière. Et moi, ensuite, je suis né dans les luttes étudiantes. Et déjà à 14 ans, j'étais déjà immergé dedans. Et depuis, j'ai continué. D'abord, en me mettant en attendant le groupe de Potter Operai, en 71 déjà, tout jeune, et ensuite en suivant l'évolution, c'est-à-dire qu'ensuite en 73, Potter Operai s'est dissous, et s'est dissous, et une partie des membres de Potter Operai sont entrés dans la Brigade Rouge, et l'autre partie a fondé des groupes d'autonomie ouvrière. Parce que déjà à l'époque, il y avait tout un. Tout un courant d'idées culturelles, des raisons de pousser aux armes. En 73, la dissolution du potere operaio coïncide en fait avec les golpes de Pinochet au Chili et donc la réalisation de la part des gens des révolutionnaires que la voie démocratique au socialisme était voué à l'échec, puisque tu pouvais prendre le pouvoir avec les urnes et ensuite un coup militaire renverser les cartes. Et c'était une des raisons, en fait, avec une tradition longue qu'il y avait en Italie d'insurrection communiste. Puisqu'il y avait eu trois, en fait, au cours du XXe siècle, il y a eu trois phases de tentatives insurrectionnelles en Italie. La première était après la Première Guerre mondiale, en 1919 et 1920, ce qu'on appelait les biennes rouges, les années rouges, où il y avait eu 300 les principaux usines d'Italie occupées, les grandes propriétés terriennes aussi, un mouvement sélectionnel qui a duré des ans et qui a été stoppé et commencé par les fascismes, puisque les fascismes italiens Mussolini sont nés des escadrons formés financés par les propriétaires et les industriels pour combattre les grévistes. Il y a eu une deuxième phase insurrectionnelle entre 1943 et 1948, puisqu'en 1943, Mussolini chute, c'est les militaires italiens qui prennent le pouvoir et qui se mettent neutres par rapport à la guerre. L'Italie est occupée par les nazis. Et entre 1943 et 1945, se forme ce qu'on appelle la résistance, les partisans italiens, qui était, bien sûr, comme en France, il y avait des centristes, démocrates, catholiques, etc. Mais les gros des forces, c'était des militants communistes. Et entre 1943 et 1945, il y a une véritable guerre civile en Italie qui s'est faite. Et la guerre civile est arrêtée en 1948 après l'attentat à Togliatti, par Togliatti lui-même et par le Comintern qui blocca toute tentative insurrectionnelle en Italie, comme vous savez, par le pacte de Yalta, où l'Occident est réservé à l'influence américaine et l'Est de l'Europe aux soviétiques. Bon. Mais cette mémoire a perduré et s'est transmise. Et donc, une génération après, en 68, ça reprend encore une fois. Les courants révolutionnaires insurrectionnels en Italie, c'est ça dont il s'agit. Qui avait donc une tradition communiste en sens général, aussi bien à l'intérieur du Parti communiste italien que parmi tous les gens qui n'étaient pas au Parti communiste italien, qui étaient anarchistes, qui étaient dans des groupes externes au Parti communiste. Et ça prend encore à partir de 68 dans différents groupes qu'on appelait extra-parlementaires, Potrapero, Tocantino, Movimento Studentesco, Milan, Vangropelle, etc. Bien, ces mouvements qui à l'origine étaient des mouvements politiques qui faisaient des luttes de masse, etc., se voit confronté en fait de plus en plus dans la première moitié des années 70 aux forces répressives de l'État et aux fascistes. Et de là vient l'effet de la création des services d'ordre des groupes extraparlementaires, vient aussi le noyau ensuite des groupes armés. Vous savez que Primarini est né du service d'ordre de l'Otto Contino et que, en gros, les groupes de l'automobile sont nés du service d'ordre de Potere Operaio, en gros. Et la Batterie de Pegasus aussi. Donc c'est une histoire qui évolue. C'est pourquoi j'ai trouvé pas juste la vision de ce film qui est par ailleurs bon, qui s'appelle La meilleure jeunesse. Non, meilleures années, oui, en français, oui. La meilleure gioventù en italien, oui. Assez injuste parce que il présente des braves types, des jeunes altruistes, solidaires avec les alluvionnés de Florence en 67. Et puis dans la deuxième partie du film, il y a la présentation d'une fille qui glisse dans les Brigades Rouges et alors elle est présentée avec. Déjà physiquement, avec des yeux hors des orbites, un peu folle, et on comprend pas. On comprend pas. Et donc, ce film-là, hein, tout le cas de Jordan, le réalisateur, c'est quelqu'un qui était, ou est encore aujourd'hui, au Parti communiste italien. Enfin, ce qui en reste, ce qui est les héritiers. Et donc il prend cette ligne qui est la ligne officielle de l'histoire en Italie, où oui, on veut bien voir des gènes altruistes qui ont fait des luttes qu'on peut considérer recevables dans la première moitié des années 70, et ensuite, après la deuxième moitié des années 70, la lutte armée, on ne comprend pas comment c'est né. Et c'était des fous, des provocateurs, des extrémistes, comme on les appelait, voire des terroristes. Bon, tout ça, c'est injuste, puisque ce sont les mêmes gens, à des époques différentes de leur vie et de leur parcours personnel et collectif. Hein. C'est un continuum. Alors, si vous voulez, évidemment, le mouvement de 68 en Italie, c'était des millions de personnes. Les mouvements de l'autonomie ouvrière en Italie en 77, on peut l'évaluer à quelques centaines de milliers de personnes. Hein? Quand vous faites une manif à Rome de 100 000 personnes au mois de mars 77, c'est 100 000 personnes. Mais à l'époque, on arrivait à faire des manifs à Rome, à Milan, à Turin, à Padoue, hein, partout, et il y avait quelques centaines de milliers de personnes dans la rue le même jour. Bon, donc un mouvement large, d'abord, puis réduit ensuite dans les choix de radicalisation, disons, et à l'intérieur de ces mouvements de radicalisation large, quelques milliers de personnes qui ont effectivement pris les armes. Et donc, les groupes armés en Italie, objectivement, puisque quand même il y a eu des études d'étrangers, pas forcément des Français en particulier, des Allemands, sur l'Italie de 70, parce qu'en Italie c'est presque interdit et censuré de s'intéresser de façon ouverte. Bon, on montrait qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont pris les armes effectivement. Les groupes de Renato Curcio à l'Assemblée des documents et des études, après les années 90, sur les groupes armés dans les années 70. Et donc, il résulte qu'il y a eu environ 5 000 condamnés à des années de prison et entre 15 et 20 000 personnes qui sont passées par les tribunaux, et d'abord en prison, quelques temps. Donc, un mouvement large, beaucoup plus large que... c'est qu'a connu la France avec Action Directe, c'est qu'a connu l'Allemagne avec la RAF, ou c'est qu'a connu l'Espagne avec les Grapo et autres groupes armés d'extrême gauche. Et donc c'était un mouvement d'amplitude qui classifiait des terroristes comme encore aujourd'hui en Italie ils le font. Parfaitement juste. Bien entendu, il y a eu des meurtres. Il y a eu environ 300 morts faits par l'extrême gauche au cours de 10-12 ans. Mais il ne faut pas oublier que quand nous avons pris les armes, hein, il y avait derrière nous quelques 100 personnes tués au cours des manifs en Italie à partir de 48. Hein? Et tués à coups de bâton, à coups de balles dans les manifs. C'était pas... Et c'est à ça que nous avons réagi. On n'avait pas vraiment, même les brigades rouges n'avaient pas idée de vouloir prendre le pouvoir par les armes. On n'était pas si cons, si naïfs. Enfin, parce que le truc, c'est que tu commences avec des molotov, des cailloux d'abord. Tu suis avec des cocktails molotov. Ensuite, tu as des pistolets. Et ensuite, tu as des mitraillettes et des Kalachnikov. Et ensuite, tu te trouves devant les chars. Parce que c'est ça qui s'est passé. Parce que quand en 77, on avait des armes de poing et quelques mitraillettes qu'on avait réussi à récupérer, et tu te trouves devant des chars de l'armée, qu'est-ce que tu fais? T'es mort, quoi. T'es obligé d'aller ailleurs. Tu veux pas mener un combat contre beaucoup plus fort. Mais c'était pas ça notre objectif. Les brigades rouges ont séquestré et ensuite tué, malheureusement, Aldo Moro. Avec une théorie... qu'ils avaient inventé, de porter l'attaque au cas de l'État. Bon. Bon, c'était surtout médiatique la chose, parce qu'en fait, les Brigades de Rouge, comme tous les autres groupes armés, on faisait de la violence symbolique, c'est ça l'affaire, symbolique. On faisait de la propagande armée pour soutenir les luttes sociales. Hein? C'était l'intervention armée, c'était pour soutenir les luttes sociales. C'est pour ça que les Brigades de Rouge ont. Jusqu'en 1976, ils n'avaient tué personne, sauf par accident. Hein? Mais ils avaient séquestré des dirigeants d'entreprise, mis au pilori avec une pancarte au cou, qui était bien vu par les ouvriers, qui était bien vu. Il y avait une solidarité, une sympathie évidente. Et qui a continué, qui a perduré, parce qu'autrement, on ne l'aurait pas continué aussi. On était soutenus. Ont été soutenus parce que les gens nous voyaient qu'on servait à quelque chose. Parce que je raconte dans mon bouquin, en 78, dans mon coin, là, il y avait. On était rentrés de vacances fin juillet avec les camarades et il y avait des ouvrières d'une usine qui sont venues nous voir en disant que les patrons voulaient licencier, transférer l'usine à 300 km plus loin. Enfin bon. Et donc, le lendemain, on a monté occupation d'usine, grève. Enfin, grève et sabotage, et menace au patron. Et menace au patron, ça a marché, quoi. Ça a marché parce qu'il a reculé. Il a reculé parce qu'il savait que s'il allait plus loin, il risquait, quoi. Parce que ça faisait déjà un moment qu'on intervenait, qu'on faisait un intervento sur les luttes ouvrières avec des moyens, oui, parfois armés, c'est-à-dire brûler des voitures des chefs, des chefs d'atelier, des patrons, attaquer la maison, voilà. Et ça servait. Ça servait parce que l'intimidation, quand même, a de l'effet sur des gens qui se pensent invulnérables. Mais c'était ça, on ne passait pas de prendre les armes. Les groupes armés sont formés d'abord comme autodéfense, ensuite comme offense vis-à-vis de ce qu'on considérait nos ennemis, et c'était fondamentalement les patrons, l'État et les forces de l'ordre, pour résumer. Dans cette montée qui a eu son point culminant en 77, avec le mouvement de 77, qui était un moment qui était la réussite de ce qu'on avait espéré, c'est-à-dire qu'on espérait, comme disait Mao, que 1000 frères surgissent, nouveau, et effectivement, en 77, il y a eu en Italie, phénomène unique en Europe, un mouvement social très très important qui voyait mélanger des ouvriers, surtout des jeunes ouvriers. Parce que moi j'ai commencé en allant causer avec des vieux ouvriers communistes d'usine, assez marxistes-léninistes. Mais en 77, ce n'était pas ces ouvriers-là qui étaient avec nous, c'était des jeunes ouvriers. Des jeunes ouvriers qui étaient sortis, d'abord qui avaient fait des écoles jusqu'au bac, au bac technique, et des jeunes ouvriers qui avaient une culture 68 art, underground, contestataire, alternative. Et c'était autre chose. Et qui se sont joints à des étudiants, à des précaires, à des féministes, à des homosexuels, à des pros de quartier, à un tas de mouvements que les politologues n'arrivaient pas à définir. Et qu'on a appelé un étrange mouvement de trans étudiants. Ils ne savaient pas comment définir ce magma. Incompréhensible, mais compréhensible à nous. Et moi, je pense en effet que déjà en 77 en Italie, il y avait les germes de ceux qui sont aujourd'hui les nouveaux mouvements sociaux qui sont de cette nature-là, qui agrègent différentes sensibilités et positions sociologiques, disons. Moi, j'ai vécu les printemps parisiens derniers, Nuit debout, et j'ai trouvé l'humus que j'avais respiré en Italie dans les années 70. C'est-à-dire ce mélange de toutes sortes de désirs et de revendications, de refus qui viennent de toutes parts, y compris des SDF debout, drogués debout. J'ai trouvé ça très, 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 très fort et très, très, très bon. Je crois que c'était ça en 77 en Italie, ce qu'ils n'ont pas compris. Suite à ça, l'État, pour faire bref, a réagi de façon brutale. De façon brutale, puisqu'ils ont mis en place, après Aldo Moro, en fait, ils ont mis en place tout un système répressif hors normes, extrajudiciaires, des prisons spéciales, des tribunaux spéciaux, des magistratures spéciales pour les terrorismes, etc. Tout un système qui visait à nous combattre, à nous détruire, à nous annihiler. Et en particulier, ils ont mis en place cette législation prime dans l'Italie chrétienne, des repentis, qui n'étaient pas des repentis. C'était des salopards, des mouchards qui ont balancé leurs copains et camarades pour s'en sortir. Mais ça fait beaucoup de mal, puisque ça introduit les vers dans l'organisme. Parce que jusqu'à là on n'envisageait même pas que quelqu'un pouvait se retourner et balancer les camarades. Et là, du moment où il y a eu des balances, ça introduit la suspicion à l'intérieur des mouvements où, au lieu qu'être en confiance avec les autres autour, on commençait à viser, se méfier. On ne sait pas si après l'autre ne va pas nous balancer. Et ça, c'était grave. Ça, c'était grave. Et là-dessus, la réaction de certains, l'intérieur de Brigade Rouge, la Primarine en particulier, qui ont tué des balances, ça n'a pas non plus été quelque chose de bien pour... au contraire, ça a empiré la chute. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux années de plomb. Et les années de plomb, ce ne sont pas, pour moi, les années 70. Les années 70, pour moi, restent des années de rêve avec du plomb. Mais les années du plomb, c'est les années après, les années 80. Les années où l'État italien impose le silence et la censure à tous ceux qui pouvaient critiquer d'une façon ou d'une autre l'état des choses. Et cette censure, ce silence imposé à la critique subversive dure jusqu'à aujourd'hui. C'est assez terrible l'Italie d'aujourd'hui à regarder. Pour quelqu'un qui a vécu dans les 70, qui même à l'étranger était vu comme un laboratoire de nouvelles idées de critique sociale, voir comment aujourd'hui l'Italie est un pays où l'hyperbénisme est triomphant, le conformisme est indéfectible, et où encore aujourd'hui, c'est incroyable, encore aujourd'hui nous sommes considérés des terroristes et qu'on doit seulement se repentir, faire amende honorable, demander pardon, sans mettre en avant tout ce qu'il y avait de bien dans cette expérience et qui a perduré, qui continue aujourd'hui. Parce qu'en Italie, la lutte armée s'est arrêtée, mais les mouvements sociaux alternatifs ont continué. ont continué malgré toutes les difficultés. Et aujourd'hui, il y a des centres sociaux qu'on avait inventés dans un matière de 1970. Aujourd'hui, il y a des centres sociaux partout en Italie. Partout, presque dans des bleds, il y en a. Hein? Ça parle des grandes villes, évidemment. Et qui font du travail d'intervento dans la société, usines, surtout tout ce qui est précariat, la lutte sociale, la lutte antimilitariste, etc. Et des activités culturelles et sportives aussi, pourquoi pas. Donc il y a tout un héritage qui est important en Italie de l'autonomie ouvrière et de ces années-là. Mais il est nié par l'État et il ne faut surtout pas en parler de façon positive. Et au point que les camarades eux-mêmes, beaucoup ont intériorisé une certaine censure de ces années-là, puisqu'il est interdit d'en parler de façon positive. C'est que incroyable, parce que encore aujourd'hui en Italie, moi j'ai été arrêté en 82 en arrivant en France. Je me suis fait arrêter presque près, disons. Je savais bien à quoi j'allais à l'encontre. J'ai joué la carte que Mitterrand avait dit que si on lâchait les armes, ils nous accueillaient, en gros, sans plus. Et donc je suis venu, j'étais arrêté. Libéré au bout d'une semaine par ordre de la chancellerie de Badinter, et depuis, à part quelques amers, pas sans plus. Et comme moi, des centaines d'autres Italiens ensuite ont pu vivre en France sans en liberté. Donc, Mitterrand, l'État français, a donné pratiquement une amnistie à quelques centaines d'Italiens réfugiés. À la place de l'Italie, qui n'avait pas eu le courage de le faire. Bon, l'Italie, depuis 30 ans, demande, pas s'ils ont arrêté maintenant, demande l'extradition des réfugiés italiens en France. Bon, ils ont obtenu 2 extraditions depuis. La France a toujours refusé qu'il y ait un gouvernement de gauche ou de droite. Or, en Italie, jamais lu, ni un livre évidemment, ni un article de journal, les journalistes qui disent, mais comment c'est possible que l'Italie a condamné, été en prison encore aujourd'hui, c'est pas des 100 personnes, je pense, pour faire le terrorisme en 1970, et la France a pratiquement donné l'amnistie à des centaines de personnes. Mais jamais en Italie, jamais un journaliste osait dire ça. C'est qui ? Juste une évidence. Juste un constat. Hein? Jamais personne n'a soulevé cette question. Comment c'est possible qu'un État aussi démocratique que l'Italie, quand même, si on parle comme ça, laisse des gens libres et l'autre veut les mettre en prison. Aucun journaliste, aucun journal a osé, jusqu'à présent, soulever cette question. Hein? Encore aujourd'hui, les protagonistes des 70 sont obligés de se taire. Encore aujourd'hui, Renato Curzo, il a risqué de se faire interdire récemment une présentation de son dernier travail sur les migrants à Milan. Vous voyez, c'est incroyable. Il n'allait pas parler des années 70. Vous voyez, mais quelqu'un qui s'exprime, étant évidemment une figure des années 70, non, il doit être censuré. Et c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Voilà, donc c'est une plaie ouverte en Italie qui n'est toujours pas fermée ni encore moins cicatrisée, puisqu'ils n'ont pas voulu, puisque depuis ils agitent toujours le spectre du terrorisme de façon instrumentale, puisque n'importe quel depuis les années 80 en fait, n'importe quelle lutte radicale en Italie est tout de suite mis sur le compte des résurgences du terrorisme. Harry De Luca est le cas le plus connu et flagrant, qui avait justifié un petit sabotage sur les travaux du TAV Lyon-Turin. Et il a failli aller en prison. Vous voyez, La moindre action critique sociale est aujourd'hui que c'est instrumental, c'est voulu. Et c'est incroyable qu'en Italie, il n'y ait pas quelques rarissimes cas des gens qui dénoncent ça. C'est terrible. Voilà. Mais bon, j'aime plus. Autant j'aimais l'Italie dans les 70, autant aujourd'hui, je trouve que c'est terrible ce qui se passe, puisqu'il y a. Il y a une censure, une autocensure sociale qui est terrible. Et les mêmes camarades sont sociaux, se conforment malheureusement à ces dictats donnés par l'État. Et évidemment, il faut se protéger, et c'est difficile. Les années 90 ont été très difficiles pour les camarades en Italie. J'espère que ça va changer comme ailleurs.